Le Monde aujourd'hui, Jean-Roger Dion à ce micro, au sommaire de cette édition du jeudi 23 mai 2024. Au Tchad, le général Mahamat Debi Itno, élu président, a prêté serment ce jeudi pour un mandat de 5 ans.
Nous, Mahamat Idriss Déby Itno, président de la République, élu selon les lois du pays, j'irai solennellement devant le peuple tchadien et sur l'honneur de préserver, respecter, faire respecter et défendre la Constitution et les lois.
Compte rendu complet de la cérémonie d'investiture dans la partie magazine. En RDC, Vital Kamerhe a été élu président de l'Assemblée nationale 3 jours après le présumé putsch. Au Niger, une série d'attaques en moins d'une semaine a fait plus d'une vingtaine de morts, militaires et civils. Le président Joe Biden accueille aujourd'hui le président kenyan William Ruto à la Maison-Blanche pour une visite d'État de 3 jours. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal. Au Tchad, le nouveau président, le général Mahamat Idriss Déby Itno, a prêté serment aujourd'hui pour un mandat de 5 ans à la tête du pays, renouvelable une seule fois. Il a dirigé la junte militaire qui a conduit la transition pendant 3 ans avant d'être élu président lors d'une élection boycottée par l'opposition. Le point avec Nani Talani.
Nous, Mahamat Idriss Déby Itno, président de la République, élu selon les lois du pays, j'irons solennellement devant le peuple tchadien et sur l'honneur de préserver, respecter, faire respecter et défendre la Constitution et les lois, de remplir avec loyauté les hautes fonctions que la nation nous a confiées.
C'est en ces termes que le général Mahamat Idriss Déby Itno, 40 ans, a prêté serment au Palais des Arts et de la Culture de N'Djamena devant les membres du Conseil constitutionnel et des centaines d'invités. Après avoir vanté le retour à l'ordre constitutionnel, il a promis d'être le président des Tchadiens de tous horizons et de toute sensibilité. Sa prestation de serment met fin à une transition qu'il dirigeait depuis le 20 avril 2021 suite à la mort de son père, le maréchal Idriss Déby Itno, tué en se rendant au front après avoir dirigé le Tchad pendant plus de 30 ans. Mahamat Déby Itno a été élu à la présidentielle du 6 mai avec 61% de voix contre 18,54% pour l'ex-opposant Succès Masra, nommé Premier ministre il y a 4 mois. Ce dernier a présenté sa démission hier et était absent à l'investiture.
En République démocratique du Congo, Vital Kamerhe, ministre de l'économie dans le gouvernement sortant, a été élu président de l'Assemblée nationale. Cette élection de M. Kamerhe au perchoir intervient 3 jours après l'attaque de son domicile lors d'une présumée tentative de coup d'État. Yakuba Ouedraogo.
Dans cette élection au perchoir congolais, seules les voix de 36 bulletins nuls ou blancs sur un total de 407 votants ont échappé à Vital Kamerhe, unique candidat lors d'une séance publique du Parlement. Dans son discours inaugural, le nouveau président de l'Assemblée nationale a évoqué la présumée tentative de coup d'État.
Cet événement intervient au moment où les ennemis de la démocratie ont agi de manière criminelle contre notre État, sémant à l'Est et maintenant à l'Ouest. Un fleuve de sang dans une aventure de prédation qui n'a que trop duré et à laquelle nous sommes déterminés de mettre fin.
Élu député de la majorité aux élections de décembre, Vital Kamerhe avait été choisi le 23 avril comme candidat de l'Union Sacrée, plateforme politique pro-Tshisekedi à la présidence de l'Assemblée. L'élection du bureau de l'Assemblée devrait dégager la voie pour la mise en place du gouvernement en attente de formation plus de 5 mois après la réélection de Félix Tshisekedi. L'Est du pays est confronté à une crise sécuritaire, la rébellion du M23 occupant des pans de la province du Nord Kivu. Vital Kamerhe a promis de placer l'insécurité au cœur de ses préoccupations.
En Guinée, l'interdiction par les militaires au pouvoir de 4 radios et une télévision privée très suivie a provoqué une levée de boucliers dans un contexte de restrictions sévères de la liberté d'informer. Le Forum des forces sociales de Guinée, une association d'organisations de défense des droits humains et de la société civile, a fustigé dans un communiqué un retrait d'agrément massif et incongru. L'influent chanteur de reggae Eli Kamano a crié au paroxysme de la dictature. L'opposant Selou Dalein Diallo a condamné fermement cette autre manifestation de la folie liberticide de la junte dans un communiqué. Les autorités sénégalaises ont lancé aujourd'hui une plateforme en ligne censée recueillir les contributions des citoyens dans le cadre des assises du système judiciaire qui vise à réformer et moderniser la justice. Les différentes propositions des assises du système judiciaire seront connues le 4 juin et feront l'objet de l'arbitrage de l'autorité politique, a déclaré Alassane Ndiaye, conseiller technique au ministère de la Justice, lors de la conférence de presse de lancement. Au Niger, une vingtaine de personnes ont été tuées dans une attaque de bandits armés en début de semaine dans un village de la région de Tillabéri, près du Mali. Hier, mercredi, une autre attaque a eu lieu, tuant deux soldats et un civil à l'est de Niamey, a indiqué le ministère de la Défense. Rosine Monizero.
Selon un communiqué publié tard mercredi soir, deux soldats nigériens et un civil ont été tués dans une attaque menée mercredi par des terroristes sur une vingtaine de motos à Tabala, un village situé dans le département de Baléara. Le ministère de la Défense ajoute que trois terroristes ont également été tués tandis que des armes ont été récupérées par l'armée. Mercredi, la radio publique nigérienne a également annoncé une attaque de bandits armés en début de semaine dans un village de la région de Tillabéri, près du Mali, tuant une vingtaine de personnes. La radio ne précise pas les circonstances du massacre, mais indique qu'il est survenu dans le village de Djambala, à une trentaine de kilomètres de Tillabéri, considéré comme un repère de groupes djihadistes armés agissant dans les trois pays, Niger, Burkina et le Mali. La région de Tillabéri est le théâtre depuis 2017 d'actions sanglantes de ces groupes liés à Al-Qaïda et à l'État islamique. Il est placé sous état d'urgence depuis. Les attaques continuent malgré le déploiement massif de forces anti-djihadistes.
Le Bénin a bloqué tout passage frontalier vers son voisin nigérien depuis le fleuve Niger. Une escalade supplémentaire dans les tensions entre les deux pays depuis l'arrivée au pouvoir des militaires à Niamey. En juillet dernier, le passage du fleuve Niger est désormais verrouillé côté béninois. Le seul point de passage autorisé est le passage terrestre du pont de Malanville, ouvert côté béninois mais fermé côté nigérien.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président américain Joe Biden reçoit son homologue kenyan William Ruto à la Maison-Blanche. Monsieur Ruto est le premier dirigeant africain depuis 2008 à avoir les honneurs d'une visite d'État. Il a été reçu ce matin avec les honneurs militaires avant un entretien avec Joe Biden et une conférence de presse commune. Suivra dans la soirée un dîner de gala en présence des premières dames. Nathalie Barge.
Hier, Joe Biden et William Ruto ont participé à une réunion sur l'innovation technologique avec des chefs d'entreprise. Monsieur Biden a annoncé des échanges et investissements dans les domaines de la cybersécurité, de l'intelligence artificielle et des semi-conducteurs. Louant 60 ans d'amitié solide entre le Kenya et les États-Unis, William Ruto a vanté la création d'un jumelage entre Silicon Savannah au Kenya et Silicon Valley aux États-Unis. Il a mis l'accent sur la jeunesse kenyane qu'il a qualifiée de talentueuse, éduquée et innovante et a loué la technologie américaine de pointe et les investisseurs avides d'opportunités selon ses propres termes. Les États-Unis et le Kenya vont publier un communiqué commun sur la question de la dette pour les pays africains qui cherchent à renforcer leur économie. Au plan sécuritaire, selon un haut responsable de la Maison-Blanche, Joe Biden va demander au Congrès américain de donner au Kenya le statut d'allié majeur non membre de l'OTAN. Actuellement, 18 pays bénéficient de privilèges militaires et diplomatiques liés à ce statut. La discussion devrait porter par ailleurs sur Haïti, où Nairobi va envoyer des policiers pour diriger une mission approuvée par le Conseil de sécurité en octobre dernier.
Le président iranien Ibrahim Raisi, décédé dimanche dans un accident d'hélicoptère, a été inhumé aujourd'hui dans sa ville natale de Mashhad, dans le nord-est, où des centaines de milliers de personnes lui ont rendu un dernier hommage. Cette cérémonie a clôturé les trois jours de funérailles. Une fois les cinq jours de deuil passés, les autorités, notamment le président par intérim, Mohamed Mokhber, 68 ans, se concentreront sur l'organisation de l'élection présidentielle fixée au 28 juin. Et puis, l'Assemblée générale de l'ONU a créé aujourd'hui une journée internationale de commémoration du génocide de Srebrenica en Bosnie-Herzégovine. Malgré la colère de Belgrade, la résolution préparée par l'Allemagne et le Rwanda, deux pays marqués par d'autres génocides du XXe siècle, a recueilli 84 votes pour et 19 votes contre et 68 abstentions. Voilà pour le journal, vous suivez VOA. À présent, la minute écho avec John Lindon.
Le conseil d'administration du groupe de la Banque africaine de développement a approuvé mercredi à Abidjan un prêt de 240 millions de dollars américains au bénéfice de l'île Maurice. Selon l'agence Ecofin, ce financement devrait permettre au pays de mettre en œuvre la deuxième phase du programme d'appui à la compétitivité et à la résilience économique. La filiale congolaise du groupe pétrolier français Total Energy entend investir plus de 375 milliards de francs CFA dans le pays au cours de l'année 2024, souligne le site de Financial Afrique. L'annonce a été faite par Patrick Bouyané, son président directeur général, alors qu'il était reçu en audience le 19 mai dernier par le président congolais Denis Sassou Nguesso. D'après les données fournies par l'Institut national de la statistique dans sa note sur le commerce extérieur de 2023, le Cameroun a exporté plus de 127 000 tonnes de coton brut vers l'étranger pour une valeur de plus de 147 milliards de francs CFA. Selon le site Ecomatum.net, le volume exporté est cependant en baisse de 21 000 tonnes, soit moins 14,6% par rapport à 2022. C'est la deuxième année successive que les exportations d'or blanc connaissent un repli.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Jean-Roger, bonsoir à tous.
Demain vendredi débutent les playoffs de la Basketball Africa League au Rwanda.
Oui, les 8 meilleures équipes de cette saison 4 vont s'affronter du 24 mai au 1er juin à la BK Arena de Kigali. Ce sont Alali de la Libye, Alali SC d'Égypte, l'AS Douane du Sénégal, Cape Town Tigers d'Afrique du Sud, FUS de Rabat, Petro de Luanda, Rivers Hoopers du Nigeria et l'Union Sportive Monastirienne de la Tunisie. Deux matchs ce vendredi, les Libyens d'Alali font face aux Sud-Africains de Cape Town Tigers avant le choc nord-africain entre les champions en titre égyptiens d'Alali et les Marocains de FUS de Rabat. Cette phase connaîtra un tour de classement où l'équipe la plus performante va jouer contre l'équipe suivante. La phase suivante sera les quarts de finale, le début donc des matchs à élimination directe.
Ici en NBA, Dallas commence bien la finale à l'Ouest.
Les Mavericks ont parfaitement réussi leur début en finale de conférence Ouest avec un succès sur le parquet des Timberwolves, 108-105. Dallas a évidemment pu compter sur ses deux stars. Kyrie Irving, 30 points, a brillé en début de rencontre avant que Luka Doncic, 33 points, ne réussisse une superbe fin de match pour prendre l'avantage du terrain. Dans cette série au meilleur des 7 matchs, Minnesota a pu compter en 20 sur l'adresse de loin de Jaden McDaniels, 24 points, à 6 sur 9 à 3 points. Les Wolves devront rebondir dès demain avec une nouvelle rencontre à domicile. Et pour rappel, dans la finale à l'Est, les Celtics mènent 1-0 contre les Indiana Pacers avant le match 2 ce soir à Boston.
Basketball, toujours l'équipe de l'année en NBA est connue.
Aucun Africain dans les 15 joueurs honorés dans les 3 listes, Luka Doncic a été nommé pour la 5e fois d'affilée dans l'équipe de l'année. Le Slovène vainqueur avec Dallas du match 1 de la finale de la conférence Ouest à Minnesota mercredi connaît sa 5e sélection consécutive dans l'équipe numéro 1 qu'il partage avec le MVP serbe Nikola Jokic de Denver, le meneur d'Oklahoma City Shai Gilgeous-Alexander, le grec Gianni Antetokounmpo de Milwaukee et Jason Tatum engagé en finale à l'Est avec les Boston Celtics. LeBron James a été honoré dans la 3e équipe, sa 20e distinction du genre, un record.
Cette triste nouvelle pour finir avec la mort d'un alpiniste kényan dans l'Everest.
Le corps de l'alpiniste Joshua Cheruiyot Kirui, 40 ans, a été retrouvé près du sommet de l'Everest au Népal. L'annonce est faite par le département du tourisme népalais. Le contact avec le Kenya et son guide népalais Nawang Sherpa, 44 ans, a été perdu hier dans l'Everest, culminant à 8849 mètres. Des recherches se poursuivent parallèlement pour retrouver l'alpiniste britannique Daniel Paul Patterson, 40 ans, et son guide Passa Teji Sherpa, 21 ans, disparu mardi à environ 8750 mètres d'altitude en redescendant de l'Everest dans l'effondrement d'une corniche. En 2023, plus de 600 alpinistes ont atteint le sommet de l'Everest, année qui fut marquée aussi par un funeste record de 18 morts.
Page d'espoir VO Afrique signée Yacouba Ouedraogo.
le coup du monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Au Tchad, Mahamat Idriss Déby Itno, élu à l'issue de l'élection présidentielle du 6 mai dernier, avec 61%, a prêté serment ce jeudi et devient le premier président de la 5e République. 8 chefs d'État africains, dont le président mauritanien, président en exercice de l'Union africaine, et des délégations de 35 pays, ont fait le déplacement de N'Djamena pour assister à la cérémonie d'investiture. André Kodmajinga, correspondant de VOA Afrique, fait le point dans la capitale tchadienne.
Plébiscité président de la République selon les résultats officiels après 3 ans à la tête de la transition suite à la mort de son père en 2021, le général Mahamat Idriss Déby Itno a prêté serment devant son père africain ce jeudi.
Nous, Mahamat Idriss Déby Itno, président de la République, élu selon les lois du pays, jurons solennellement devant le peuple tchadien et sur l'honneur de préserver, respecter, faire respecter et défendre la Constitution et les lois.
Il devient ici le tout nouveau premier président de la 5e République. Il s'engage à travailler sans relâche pour l'unité du peuple tchadien.
À mes frères et sœurs qui n'ont pas porté leur choix sur ma personne, je voudrais leur dire que je respecte votre liberté de choix qui participe pleinement de la vitalité de notre démocratie. J'invite d'ores et déjà tous mes compatriotes, ceux de l'intérieur et de la diaspora, à s'unir dans un élan de solidarité et de communion pour projeter notre pays dans le futur et la modernité.
Quelques citoyens que nous avons interrogés demandent au nouveau président de se débarrasser de mauvais conseillers s'il veut vraiment réconcilier les Tchadiens.
Le pouvoir, c'est Dieu qui donne. Nous avons constaté que les gens qui sont autour du président, certains, ils ont de cœur. On peut parler de jalousie, on peut parler de haine pour exclure les gens. Mais nous demandons à ceux-là d'aider plutôt le président positivement.
Il est encore jeune, mais il ne faut pas qu'il prenne d'abord le conseil de son staff. Parce que l'entourage se croit vraiment immortel.
Les femmes, on a des difficultés, il n'y a pas l'intégration. On a envoyé les enfants à l'école, il n'y a pas l'intégration. Certains font des clandos et une heure en route.
Qu'ils puissent changer les choses.
Par rapport à l'investiture aujourd'hui du président, moi personnellement, je ne suis pas tellement content par rapport à des choses passées. Je sais que le plus souvent, quand il s'engage dans de telles situations, il dit, il jure et puis il nous promet de bonnes choses, mais à la fin, on ne voit rien.
Le premier ministre le docteur Succès Masra, arrivé deuxième, conteste toujours les résultats de cette élection. Il a démissionné à la veille de l'investiture, refuse dite par
Sad Succès Masra et son boycott. La cérémonie peut être perçue comme une manifestation de désaccord politique ou comme un geste de protestation contre le processus électoral ou contre le nouveau gouvernement qui est en train d'être mis en place, où certains caïques sont en train d'appeler à écarter l'opposition de la gestion du pays.
Une autre absence remarquée à cette cérémonie, celle du président de la Commission de l'Union africaine, le Tchadien Moussa Faki Mahamat. André Kodouma Djingar pour VOA Afrique, N'Djamena.
VOA Afrique, N'Djamena, c'est 93.1 FM au Tchad.
Au Cameroun, les communautés rurales dénoncent les actes de corruption et de détournement des fonds publics. C'est une initiative de la Commission nationale anticorruption en relation avec 22 radios communautaires établies sur le territoire. Ces médias produisent et diffusent les messages de sensibilisation, de lutte contre la corruption, de Yaoundé la correspondance d'Emmanuel Jolintap.
Dans la plupart des zones rurales du Cameroun, prévaut ce que les autorités de la Commission nationale anticorruption appellent la petite corruption. Elle ruine l'effort des communautés rurales, les prive des infrastructures de base telles que les hôpitaux, les salles des classes, les routes, les forages ou encore l'électrification rurale. La radio communale de Batouri, dans la région de l'Est, à plus de 404 km du Yaoundé, fait désormais partie des radios communautaires qui éduquent les populations rurales à la dénonciation des actes de corruption.
un militaire ou un policier qui vous estompe en route et qui vous demande de l'argent et vous donner. Pourtant, c'est des choses qui ne doivent pas être faites.
Marwan Oumarou, chef de chaîne de la radio communale de Batouri.
Il y a beaucoup d'avancées, on va le dire ainsi, parce que certains viennent nous rencontrer et nous disent qu'ils ont été victimes de ci ou ça. Et nous les référons comme on nous a demandé de le faire, parce que nous ne sommes que des intermédiaires. On ne saurait faire justice à ces derniers. Et nous référons dans tous ces cas au niveau de la CONAC. Et la CONAC ouvre des investigations.
Et les villages environnant Kondem 2 dans la région de l'Est sont situés dans une zone minière. Sous anonymat, deux natifs témoignent que les entreprises chinoises usent de corruption pour dicter leurs lois.
Quand on vient, on ne trouve pas une femme, tu es au chien, on dit, voilà une somme de 50 000, 30 000. On dit, t'as passé, c'est là, on va le prendre. Et tu refuses, tu ne peux pas refuser, parce que quand on dit là, ça vient de Yaoundé.
Le papa qui vous a amené voir son lac, c'est une longue histoire. Et que ça ne va même pas aboutir, parce qu'il y a trop de corruption.
La Commission nationale anticorruption CONAC a sélectionné 22 des 150 radios communautaires du Cameroun et formé les producteurs d'émissions en langue locale sur la lutte contre la corruption. Moïse Ngayab, chef de chaîne de la radio Satou en Ngaoundéré, dans la partie septentrionale du Cameroun.
Donc cette collaboration est la bienvenue, étant donné qu'elle va nous permettre de mieux sensibiliser sur le terrain, n'est-ce pas, les populations en langue locale.
La corruption porte surtout un sérieux coup au développement dans les zones reculées du Cameroun. Dieudonné Massigams, président de la Commission nationale anticorruption.
C'est pour cela que nous avons signé une convention aujourd'hui avec 22 radios locales pour l'utilisation des langues nationales, qu'on appelle encore les langues maternelles. Ceci permettant en sorte que la lutte contre la corruption soit intégrée dans les cultures locales et que les peuples dits ruraux puissent être davantage sollicités, impliqués, édifiés et même outillés par rapport à la lutte contre la corruption.
Le Cameroun est dans un processus de décentralisation, mais de nombreux projets dans les zones rurales ne sont pas exécutés à cause de la corruption et parfois de l'ignorance des populations sur les voies des dénonciations. Yaoundé, Emmanuel Junta, VOA Afrique.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
En Afrique, environ 15% de la population est confrontée à des problèmes liés à un handicap, malgré les progrès technologiques, les infrastructures limitées et les coûts élevés des technologies d'assistance créent des obstacles à l'accès au numérique, conduisant à l'exclusion. Une conférence à Nairobi au Kenya vise à contribuer à changer cela. Un reportage de Mohamed Youssouf, le récit est de Blanche Sanou.
Edwin Omulama fait partie des millions de personnes en situation de handicap en Afrique. Il est ici aujourd'hui pour découvrir comment la technologie peut l'aider à se déplacer sans l'aide de quelqu'un ou de sa canne. Un dispositif est attaché au pied d'Edwin Omulama pour empêcher les collisions, le protégeant ainsi des blessures.
Beaucoup de gens sont capables de nous identifier grâce à l'utilisation de cams, mais avec la caméra, les gens ne pourront pas nous différencier. Ils penseront que nous sommes normaux. Nous fonctionnerons comme des personnes normales. Et je crois que cela nous aidera à être plus indépendants lorsqu'il s'agit de marcher et d'identifier des objets.
Lors de la conférence Inclusive Africa, au moins 20 innovateurs ont présenté des technologies conçues pour améliorer l'indépendance des personnes handicapées. Selon les Nations Unies, plus de 80 millions de personnes en Afrique vivent avec un handicap. D'ici 2050, 3,5 milliards de personnes dans le monde auront besoin de technologies d'assistance. Les appareils présentés ici sont conçus pour répondre au handicap, depuis l'aide à la communication pour les personnes souffrant de déficiences verbales et visuelles jusqu'à la facilitation des mouvements. Fosina Urasa de Tanzanie dit que se faire aider à monter dans un véhicule peut être très bouleversant.
Il y a des moments où quelqu'un vous touche d'une manière qui vous met mal à l'aise, mais avec ce mode de transport, cela contribue à préserver notre dignité. Je suis soulagé de ne plus avoir à être porté et touché. Désormais, je peux monter dans le véhicule avec respect et m'asseoir confortablement. Cela m'apporte une immense joie.
L'accès aux technologies d'assistance est faible en Afrique et est imputé à la pauvreté, à l'environnement, au manque de connaissances et au manque de services de soutien et de prestataires de services. Les organisateurs et les participants à la conférence organisée à Nairobi ont discuté des défis auxquels ils sont confrontés en tant que personnes handicapées, comme le coût et les opportunités en matière de technologie d'assistance. Irène Barry-Kirika, fondatrice et PDG d'Inable, nous voulons également débloquer l'écosystème informatique africain et aider les pays et les innovateurs africains à développer des politiques et des structures de financement qui peuvent aider l'innovation à prospérer en Afrique. Nous voulons également donner aux jeunes handicapés les bonnes informations, outils et opportunités pour devenir champions de l'accessibilité numérique à travers le continent. Alors que la conférence se termine, les personnes en situation de handicap et leurs défenseurs espèrent que leurs voix seront entendues et soutenues par des outils leur permettant d'améliorer leur vie.
Les traversées de migrants à la frontière entre les États-Unis et le Mexique ont diminué selon les derniers chiffres. Les passages illégaux augmentent généralement au printemps, mais les autorités affirment qu'en avril, ils ont diminué de plus de 6% par rapport au mois de mars. Aline Barros nous en dit plus, le récit avec Yacouba Ouedraogo.
Le long de la route, des migrants marchent près de la clôture en acier qui marque la frontière entre les États-Unis et le Mexique, à Sasabi, en Arizona. Ils ont déjà marché environ 14 km à l'intérieur des États-Unis pour arriver à ce camp de Sasabi. Ici, ils attendent de se rendre aux agents de la patrouille frontalière américaine. La plupart d'entre eux disent qu'ils vont demander l'asile au gouvernement américain. Originaire du Togo, le migrant Ashraf Duronil a dit à la VOA que la situation dans son pays n'est pas sûre.
Bien sûr que le pays, à l'Afrique, ça ne va pas. Il va falloir qu'on se cherche. Voilà pourquoi on a décidé de se rendre aux États-Unis.
Les migrants décrivent leur voyage vers les États-Unis comme dangereux.
J'ai eu peur de ma sécurité puisque dans la forêt au Panama, ça n'a pas été facile. C'est la marche. C'est une grande forêt en fait.
Les autorités américaines ont publié des données montrant que les passages illégaux vers les États-Unis en provenance du Mexique ont diminué de plus de 6% en avril, contrairement à l'augmentation habituelle observée au printemps. Le service des douanes et de la protection des frontières américaines indique avoir eu affaire à près de 129 000 migrants dans les points d'entrée le long de la frontière sud-ouest. Ce chiffre est inférieur à celui du mois de mars, environ 137 000, et représente près de la moitié des 250 000 migrants recensés en décembre. Le gouvernement américain attribue la baisse du nombre de traversées à l'intensification des contrôles au Mexique. Les migrants viennent toujours de différentes parties du monde. John Modlin est le chef de patrouille de Tucson en Arizona.
Nous assistons à une forte migration en provenance d'Afrique de l'Ouest. Il s'agit généralement de langues et de cultures qui ne nous sont pas familières, des langues et des cultures que les autres migrants ne connaissent pas non plus. Il s'agit donc d'un défi permanent.
Mais même si les chiffres sont moins élevés, le service des douanes et de la protection des frontières affirme que les passeurs poussent les migrants vers les zones les plus isolées, comme ici dans le secteur de Tucson en Arizona.
Nous devons nous rendre dans ces zones très reculées qui ne sont pas nécessairement desservies par des routes goudronnées. Nous faisons donc de notre mieux pour les atteindre, déterminer s'il y a quelqu'un de plus vulnérable que les autres et sortir ces populations de là.
Depuis mai 2023, les services d'immigration américains ont expulsé plus de 720 000 personnes. La plupart d'entre elles avaient franchi illégalement la frontière sud-ouest. Dans le cas de Sasabi, des travailleurs humanitaires fournissent de la nourriture et de l'eau aux migrants. Mark Sanders fait partie de l'association des bons samaritains de Green Valley, Sawarita.
Avant, ces gens-là venaient du Mexique et de l'Amérique centrale, mais il y a aussi des gens de divers pays d'Afrique. Nous avons rencontré des gens du Bangladesh, de l'Inde et je ne sais où. C'est un peu comme les Nations Unies.
La diminution du nombre de traversées n'a pas ralenti les critiques des républicains sur la manière dont l'administration Biden gère les questions d'immigration. Jody Harrington est un député républicain.
Si les gens pensent qu'ils peuvent venir illégalement, ils viendront.
Les autorités américaines assurent qu'elles resteront vigilantes pour comprendre l'évolution des schémas migratoires.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro. à la mise en onde Michel Joseph, un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, la plateforme X et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.